réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Unissons-nous contre le racisme et le fascisme. Par le front antiraciste à Brest, 30 septembre et 1er octobre 2023. Au PL Guérin.
On va commencer ce week-end par une présentation d'un bouquin, alors que les gens ne verront pas à la radio, mais qui s'appelle Clément Méric, Une vie, des luttes, qui est paru chez Libertalia début juin. On va commencer par se présenter un peu. Du coup, nous, on est deux personnes, on est deux Brestois, là, on a participé à l'écriture de ce bouquin, au titre qu'on était des potes de Clément à l'époque, parce que Clément, du coup, c'était un Brestois qui a passé toute son enfance, sa jeunesse à Brest, jusqu'à ses 18 ans, où il a bougé à Paris, quand il a commencé Sciences Po, où il est resté, du coup, jusqu'à sa mort en 2013. Je ne sais pas s'il y a besoin de faire un petit point sur cette histoire, sur remettre en contexte un peu, s'il y a des personnes qui ont besoin qu'on rappelle un peu de quoi on parle, peut-être. Je ne sais pas. Ouais, peut-être. Du coup, Clément Méric, c'est un nom qui a été un peu médiatisé au moment de sa mort, du coup, le 5 juin 2013. Donc il a trouvé la mort suite à une bagarre avec trois fachos d'extrême, donc pas trois mecs d'extrême droite à Paris, rue Caumartin. Je sais pas si je rentre dans les détails, mais en gros, comme je disais, donc Clément, il avait été à Paris pour ses études et après, un peu des éléments de contexte de ce jour-là, c'est qu'il retrouve des copains à lui pour une vente privée de fringues rue Caumartin, qui est une sorte de quartier un peu commerçant à Paris. Là, je ne sais plus exactement où vers où c'est. Voilà. Vers la gare Saint-Lazare, c'est ça? Ouais. Moi, je ne connais pas bien Paris après, mais voilà. Et lui, il rejoint des potes qui ont déjà croisé trois néo-nazis dans la vente de fringues. Donc il y a eu un peu des échanges de... Voilà, enfin, il y a eu un peu des moqueries. En gros, les camarades qui ont croisé les néo-nazis leur ont un peu dit « Tiens, les nazis font leur course. » Enfin, deux, trois échanges comme ça. Et donc ils ont remarqué que les mecs étaient... donc il y avait des vigiles à l'entrée du magasin. Ils ont remarqué que les mecs avaient un point américain qu'ils ont rangé dans leur sac et d'autres trucs qu'ils n'ont pas trop vu de loin. Mais en tout cas, ils ont été voir les vigiles aussi pour dire « Attention, il y a ces mecs-là. » Voilà, donc c'est un peu inquiétant. Est-ce que vous allez leur dire quelque chose? Voilà. Ensuite, ils sont repartis devant le magasin et ils ont attendu que Clément les rejoigne, qui lui bossait à ce moment-là au Quick de la gare du Nord, et du coup qui finissait le boulot et qui devait les rejoindre pour ensuite aller faire un tour dans le magasin, et ensuite il devait bouger à un anniversaire en banlieue parisienne. Voilà, donc à un moment Clément arrive, il est assez vite mis au courant qu'il y a des mecs qui traînent dans la vente. À ce moment-là, en fait, les fachos, ils passent des coups de fil un peu à droite à gauche pour essayer de ramener du monde, parce qu'ils avaient interprété les petites blagues comme des menaces. Donc ça bécane au téléphone. Et ils sont à la fenêtre de la vente et tout. Donc à ce moment-là, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de l'histoire, mais en gros, ce qui se passe, c'est que Clément fait un tour tout seul du magasin, finit par les croiser aussi, aller parler aux vigiles aussi en disant que c'était bizarre que personne réagisse à la présence de ces mecs là. Donc les mecs sont quand même affichés, donc ils ont des t-shirts assez donc avec des groupes néo-nazis, de musique néo-nazie ou des trucs assez affichés. Clément finit par ressortir de la vente. Et pendant ce temps-là, les mecs continuent à passer des coups de fil, etc. Et on sait qu'ils ont contacté Serge Ayoub, qui est un leader d'extrême droite depuis les années 80, assez connu, en tout cas à Paris. Toute cette petite bande-là gravitait autour du local, qui est un bar tenu par Serge Ayoub. Donc lui est membre des, enfin avait créé les jeunesse nationalistes révolutionnaires, qui est un groupe un peu, je sais pas comment on pourrait dire, je vais pas dire paramilitaire, mais un groupe quand même assez radical à l'extrême droite, du style on se prend en photo cagoulé avec des fusils à pompe ou des battes de baseball. Voilà, c'est ça l'ambiance. Et donc en fait, les fachos qui sont dans la vente ont contacté un peu tous leurs potes. Et puis ils ont un dernier appel avec Sarge Ayoub 4 minutes avant la bagarre. Voilà, on peut interpréter ça comme un peu un feu vert. Il n'a pas été inquiété, lui, par la suite. Il a été entendu comme témoin assisté au procès qui aura lieu plus tard. Mais du coup, ensuite... Donc les fachos quittent la vente et ils finissent par recroiser les vigiles qui leur disent « Le métro est à droite, on ne veut pas d'embrouille dans le magasin, on vous invite à partir vers le métro et voilà, on ne veut pas qu'il y ait d'embrouille, tout ça. » En fait, eux, ils font le choix de partir en direction des antifas, enfin des camarades qui étaient sur le parvis en face. Et du coup, il y a une bagarre et il y a un coup qui est porté à Clément assez rapidement et qui est le coup qui l'a tué. Donc voilà, il est décédé. Il a été déclaré en mort cérébrale dès le soir même, je crois. Et il est mort le lendemain à la Pitié-Salpêtrière, je crois. Enfin, voilà. Pour le petit contexte, pour le petit contexte de l'histoire. Du coup, en fait, ce matin, on va parler de ce bouquin qui paraît chez Libertalia, du coup, 10 ans après. On va un peu parler de pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi 10 ans se sont écoulés avant qu'on mette en place ce truc-là. Alors, je vais peut-être présenter un peu le bouquin, l'idée de comment ça a émergé et tout ça. En gros, ce bouquin, il part de l'idée. En gros, il y avait, je ne sais pas si vous voyez, la Horde, en fait, c'est un collectif antifa qui a un site internet notamment et qui fait des autocollants ou de la publication autour de l'extrême droite en France. En gros, quels sont les réseaux d'extrême droite en France? Ils font pas mal de compilations de comment l'extrême droite s'organise un peu partout. Et il y a eu des discussions avec les gens de la Horde sur... en fait, ils trouvaient qu'il n'y avait pas eu trop de, comment dire, de paroles des proches de Clément autour de la vie de Clément, de sa mémoire de manière générale. Donc il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de matière ou d'outils auxquels se raccrocher. Et qu'il y avait juste, on a des articles de journaux, on a 2-3 trucs qui sortent à droite à gauche, surtout en 2013. Et puis chaque année, l'anniversaire de sa mort est un peu l'occasion à certains médias de republier des trucs. Mais c'est toujours un peu vague. Et surtout, il y a pas mal de choses que ses proches n'ont pas pu formuler. Donc ils ont contacté un peu les gens de la famille, contacté nous par le biais d'un copain qui est en contact avec eux. En fait, il y a à peu près 1 an et demi, je ne sais pas si tu pourrais peut-être en plus en parler, mais il y a déjà eu un article qui a été publié sur la Horde, qui a été fait par 2 copains de Brest, et qui parlait aussi de notre pote Clément, et de tout le côté un peu plus perso, et du rapport qu'on avait avec lui. C'est tout un truc autour de sa passion pour la musique et tout ça, qui est quand même un truc assez central pour nous, de ce qu'on a partagé ensemble. Et en fait, les gens de la Horde disaient c'est bien ce genre d'article, il y a plein d'autres choses à dire, est-ce qu'on pourrait pas écrire un texte un peu plus long, quoi. Donc on a commencé à se réunir. En fait, cette idée de bouquin, elle traîne depuis 2 ans, on va dire. Ça traîne dans les tuyaux un peu. On a vite fait évoquer ça avec les parents de Clément un moment, avec les gens de la Horde aussi, mais ça restait un peu, personne voulait lancer le truc vraiment, et c'est resté un peu comme ça, comme un projet un peu qui allait pas trop se faire. Et en fait, en décembre dernier, du coup décembre 2022, en gros, les gens de l'Ordre disent là, ça va être les 10 ans de la mort de Clément. Soit on le fait maintenant, soit on le fera jamais, puisque faudrait pouvoir profiter des 10 ans de sa mort pour publier ce truc-là et pour qu'on ait des chances. En gros, Libertalia avait déjà été branché pour éventuellement publier le truc. Et en fait, eux, ils ont dit, bah, en fait, si on veut pas se retrouver avec des cartons de bouquins qui se vendent pas, faudrait qu'on puisse le faire maintenant. Comme ça, on sait que ça va en parler. Là, début juin 2023, ça va être les 10 ans. Donc peut-être qu'on pourrait faire un truc autour de ça et publier à ce moment-là. Mais si on le fait pas maintenant, ça paraît peu probable que ça voit le jour. Donc on a commencé à se réunir, à faire des visios avec un peu tout ce monde-là, avec un peu des gens de Paris, des gens de la famille, des gens de divers collectifs comme ça. Et on s'est dit, ok, on le fait, on part là-dessus. Et du coup, sur un truc qui est écrit collectivement. Donc un peu le déclic, c'est qu'on n'arrivait pas à se dire comment est-ce qu'on va écrire ce bouquin. Parce qu'en fait, au départ, personne ne voulait lancer vraiment le projet parce qu'on se dit, on part de la page blanche et on part du principe que les gens vont écrire, enfin les proches vont écrire d'eux-mêmes quelque chose. Mais en fait, ça, c'est très compliqué à faire. Et du coup, on s'est dit, bah, d'abord, il faut qu'on réponde à la question, comment est-ce qu'on écrit le truc ? Du coup, on est parti sur une base d'entretien. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah, qui est-ce qu'on veut solliciter pour le bouquin ? On avait envie d'avoir une parole de tous les proches qui l'ont connu, c'est-à-dire ses camarades parisiens, les gens de Brest, des gens qui l'ont croisé à l'école ou au lycée, etc., ses voisines qui sont par ailleurs à la CGT qu'on connaît et voilà qui ont participé aussi à pour moi un peu sa démarche militante au départ, des gens de Solidaire, il a adhéré à Solidaire en arrivant à Sciences Po parce que ça a bougé un peu à Solidaire à Sciences Po, voilà. Et en fait on s'est dit, ben en fait les gens dans leur coin vont faire des entretiens entre eux. Et puis avec cette base-là, on va faire une retranscription et puis on va avoir un truc un peu complet sur qui c'était pour nous. Voilà, c'est un peu long, désolé, hein, c'est un peu soporifique, un peu le ton que j'ai, mais bon, bref. L'idée du bouquin, elle part un peu de ça. Donc un truc de mémoire, en fait, quoi, de qui c'était. Je pense que ça a mis 10 ans à se faire parce que... Je pense qu'il y avait, une idée qu'on ne savait pas trop par quel bout prendre le truc avant ça. Et qu'on avait du mal, en tout cas nous ici à Brest, à se retrouver dans les événements annuels qui avaient lieu à Paris. C'est surtout à Paris que ça s'était porté, en fait, ce truc de commémoration. Enfin, commémoration, c'est un peu... ça peut être, selon comment on le voit, un peu péjoratif, mais ce truc de temps annuel qui se déroule début juin, où il y a une manifestation parisienne, où des fois il y a eu aussi en 2014 et 2015, je crois, il y a eu un festival de Zik qui a été organisé à Paris. Nous, on ne se retrouvait pas forcément dans cette idée d'organiser de l'événement tous les ans. Donc il ne s'est jamais vraiment rien passé à Brest, à part de manière plus informelle, c'est-à-dire que nous, on se retrouvait avec des gens de la famille localement et puis on se faisait une balade à la mer et un pique-nique et des trucs comme ça. Donc ça, on a réussi à le tenir pendant quasiment tous les ans, en fait. Mais c'était plus confidentiel, on va dire. Et donc voilà. Mais il y avait quand même des trucs où nous, on voyait de loin comment... Déjà, à partir du moment où Clément est décédé, il y avait eu ce truc où... en fait sa mémoire a été aussi pas récupérée, mais en tout cas plein de gens ont parlé de sa mémoire au nom de leur organisation en disant Clément était à Sud, donc il était c'était notre militant, donc voilà, enfin les gens parlaient un peu pas en son nom mais avaient se réapproprié cette mémoire là dans un canal qui nous convient pas totalement. Je pense pas qu'on puisse attribuer sa personne à un groupe militant, un truc comme ça, et surtout qu'on oublie pas mal de choses. Donc nous, on avait plein de trucs à dire dans ce bouquin, comme d'autres gens qui l'ont connu personnellement aussi à Paris, hein, quand il est arrivé là-bas. Voilà, donc c'est comme ça qu'est née l'idée de ce bouquin. Je sais pas si j'oublie des trucs, mais en gros il fallait que le bouquin soit fini en mars, donc on a eu 4 mois pour le faire. Donc c'était ça aussi le coup de speed, c'est qu'on a décidé en décembre de le faire, et il fallait qu'en janvier on fasse des entretiens, que début février, il fallait que tout soit, tous les retranscriptions soient finies, et que après on puisse faire des synthèses et mettre un peu tout le truc en forme, quoi. Donc c'était un peu chaud, et mais bon, ça s'est fait, quoi. Enfin, plein de gens un peu se sont soutenus là-dedans. Les gens qui n'avaient pas le temps de faire de retranscription ont rebalancé sur le reste du collectif le boulot de retranscrire les entretiens, les sons et tout ça. Et du coup, il faut dire aussi un truc, c'est que les parents de Clément, Agnès et Paul-Henri, donc, ont fait un gros boulot après de synthèse et de reformulation. Genre, les entretiens ne sont pas en brut, hein, dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est lire de l'entretien en brut, c'est un peu... Bah, déjà, ça aurait été trop long. Et on avait envie de faire un format poche. Donc c'est un... L'idée, c'était de faire un petit bouquin, en fait, qui soit pas cher, qui soit en poche, qui soit pas trop gros. Finalement, il est quand même assez gros. Il fait quoi, je sais plus, 130 pages ou... Non, 225. Voilà. Bah, justement, l'idée de départ, c'était de faire un truc de 150 pages maximum, et on se retrouve avec plus de 200 pages. Et mais en tout cas, voilà, les parents de Clément ont fait un gros boulot de retranscription aussi, de synthèse et d'agencement de tous les trucs ensemble, et qui est assez ouf, moi, je trouve. Voilà, du coup, il fallait dire ça. Et ils se divisent, juste pour finir sur en gros, la présentation générale. On a décidé de faire trois parties. En gros, pour nous, l'idée principale du bouquin, c'était de faire un truc, un portrait de Clément. Enfin, pour nous, c'est la partie la plus intéressante. Enfin, pour nous, qui a porté l'idée de ce bouquin, qui a été un peu ce pourquoi on le fait. Et du coup, en fait, on fait en première partie un portrait de Clément. Donc on va retrouver nous, en gros, des gens qui l'ont connu à Brest, donc quelques potes brestois, ses voisines aussi dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont Pascal et Marie, qui sont la CGT. Par ailleurs, il y a aussi des profs qui l'ont connu au lycée de l'Arteloir, puisqu'il était à l'Arteloir à Brest, aussi plein d'autres gens, il y a deux autres potes. Il y a une copine qui était que nous on connaissait, mais qui était au lycée avec lui. C'est un peu comme ça qu'on l'a rencontré. Ça, on reviendra aussi un peu plus tard comment on l'a rencontré, tout ça. On va parler un peu d'historique brestois et tout. Bref, on va faire un peu ça. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est un retour sur l'affaire. Donc, à partir du moment où Clément est mort le 5 juin 2013. Il y a tout un traitement médiatique qui s'est enclenché à ce moment-là, avec divers tournants. Pour aller rapidement, assez vite, c'est clair que il y a une bagarre avec des gens d'extrême droite, et qu'en gros, c'est dans un contexte de manif pour tous. Damou, il reviendra un peu là-dessus tout à l'heure, mais c'est un contexte où l'extrême droite est assez mobilisée à ce moment-là sur des sujets contre le mariage pour tous et tout ça. Du coup, le traitement médiatique et politique dans les 2-3 jours en gros qui suivent, c'est on voit aussi que l'extrême droite et l'organisation de l'extrême droite, elle amène à ça. Au bout d'une semaine, il y a un retournement, c'est-à-dire qu'on commence à mettre dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. On commence à dire mais en fait, Clément, il a provoqué, donc c'est normal qu'il soit mort. Ça, c'est vraiment un truc qui a commencé à être diffusé. Et tout ça part d'une vidéo de surveillance de l'altercation, dont on reparle pas mal dans le bouquin, qui ne montre absolument rien. Donc en fait, c'est une vidéo de l'escalier du métro où on voit les pieds des protagonistes. Et on voit surtout, pour aller un peu dans la conclusion qu'on peut avoir de cette interprétation-là, sur le moment, les médias disent... la vidéo a parlé, ça c'est RTL qui publie ça, qui est repris par l'AFP, qui est repris par un peu tous les médias à ce moment-là. La vidéo parle, et on peut interpréter cette vidéo comme Clément attaque les fachos, et donc voilà. En fait, c'est pas du tout ça. Même ce qu'a fini par dire le tribunal de Paris, c'est que en fait, la vidéo, elle dit rien de plus que ce qu'on sait déjà. C'est que en fait, les antifas étaient adossés à une église en face du magasin de fringues, et que en fait, ils se sont décollés du mur où ils étaient adossés qu'à partir du moment où les fachos étaient à 10 mètres d'eux. C'est-à-dire qu'ils les ont vus arriver de loin, ils se sont décollés du mur qu'au dernier moment. Voilà, du coup, ça, évidemment, aucun média n'est revenu là-dessus, donc c'est l'occasion du bouquin pour redire ces trucs-là.
Voilà, donc la deuxième partie revient sur toute l'histoire judiciaire qui a duré 8 ans, qui s'est finie en, avec le résultat de, enfin le rendu de la cour d'appel, si je me plante pas. Alors nous on n'a pas suivi complètement en détail l'affaire judiciaire, on pourra en reparler tout à l'heure aussi. Mais voilà, donc les trois fachos ont été tous condamnés à des peines de prison. Je crois qu'il y en a deux à de la prison ferme. Bref, on reviendra sur le rapport qu'on a à la justice, nous en tout cas personnellement, mais on n'a pas suivi ça en détail. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, en gros, c'est l'après, à savoir toutes les mobilisations qu'il y a eu après la mort de Clément. Et voilà, et nous, peut-être on parlera de ce qui s'est passé à Brest en juin 2013. Et il y a un petit cahier avec des photos rigolotes. On voit Clément à la plage qui est tout petit, qui joue dans le sable. Voilà, c'est rigolo. Donc il y a un petit cahier de photos couleurs au milieu où on voit aussi la mobilisation contre la réforme des retraites à Brest en 2010, notamment. Ouais, quelques photos en couleurs. Donc c'est sympa. Voilà, donc je te laisse la parole pour peut-être un peu la suite.
Ouais, bah peut-être on va parler un peu du contexte brestois et de l'historique et de comment est-ce que nous on le rencontre, comment est-ce qu'on voilà on a un peu une petite bande dont Clément fait partie. Peut-être tu peux expliquer que tu l'as rencontré avant moi dans quel contexte vous captez, puis je raconte moi après.
Ben, du coup, rapidement, en fait, Clément, il habite à Saint-Martin, du coup, et donc on le rencontre, je crois, vers à peu près un peu avant justement le mouvement contre la réforme des retraites en 2010. Du coup, lui, il est au lycée à l'Arthe-Loire à ce moment-là. Du coup, il est assez jeune, il a, je pense, 15 ans, c'est entre 15 et 16 ans. Et du coup, il y a une copine qui est avec lui, qui est un peu plus âgée, qui est un an au-dessus de lui au lycée. Et qui le capte et qui lui dit ben tiens moi je traîne à Saint-Martin. Alors à ce moment-là à Saint-Martin il y a pas mal de squats politiques, notamment en gros nous à l'été 2008 on avait ouvert un bar autogéré qui s'appelait le Triskel, qui est en face du Triskel Beyond. Je sais pas si vous connaissez un peu Saint-Martin, mais en face du Triskel Beyond maintenant c'est un cabinet d'ostéo voilà qui fait l'angle. Et dans le temps, il y avait un bar assez connu depuis les années 80 qui s'appelait le Triskel et qui faisait langue. C'était un bar avec une devanture rouge comme ça. Et en fait, à l'été 2008, du coup, nous, on ouvre un bar sans alcool, autogéré, qui fait des... c'est ouvert quasiment tous les jours en mode on fait des softs à prix libre. On a des infos kiosques, enfin des tables de presse un peu autour de l'anarchisme et l'antifascisme et tout ça. Du coup, on est une bande un peu à traîner autour de, à ce moment-là, de la CNT, un peu dans le délire, un peu Redskin, on va dire. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, Redskin, punk, tout ça. Donc, on traîne ensemble à des concerts, machin. On tient ce bar-là la journée. On fait un fanzine qui s'appelait Brest la Rouge ensemble. Voilà, on fait des. Il y a des potes qui organisent des projections de films dans le bar. Il n'y a pas eu trop de concerts dans le bar à ce moment-là, parce qu'on s'est dit c'est un truc plutôt qui se prête plus à des petits des petites présentations, des petites réunions, des choses comme ça, plutôt qu'à des concerts. Et en fait, Clément arrive dans ce bar-là par le biais de cette copine-là qui est à l'Arthe-Loire avec lui au lycée. Et à ce moment-là, on raconte un peu ça dans le bouquin, mais à ce moment-là, il a des cheveux longs, il a un t-shirt de Led Zeppelin, et du coup, on le rencontre là, et puis il commence à traîner là sans rien dire, tu vois, un peu. Il commence à lire des brochures, et puis à un moment, on commence à se parler, et puis on devient pote. Et voilà, ça se fait un peu comme ça.
Ouais, moi je le rencontre quelques mois plus tard pendant le mouvement contre la réforme des retraites de 2010. Je suis en première année de fac et puis il vient me brancher sur le parvis de la fac par rapport à ma dégaine en fait. Et très vite on monte un groupe dont Glenn ici présent était le batteur. Et ça se joue comme ça en fait autour de la musique. Et à ce moment-là, il y a une asso à Brest qui s'appelle Brest Burning, qui organise pas mal de concerts antifascistes, etc. Et comme on les harcèle un peu pour faire jouer certains groupes, ils nous disent en fait, démerdez-vous, faites votre propre collectif. Et donc on monte un collectif qui s'appelle d'organisation de concerts qui s'appelle Crazy Youth, dont on a fêté la fin avant l'été là, à l'avenir. Et dans lequel Clément est pas mal impliqué. Et nous aussi. Donc ça tourne pas mal autour de la musique en fait à ce moment-là et de l'aspect un peu sous-culturel. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Ouais. Et je voulais revenir aussi un peu sur le contexte local par rapport à l'extrême droite et par rapport à plus généralement la manière dont le contexte dans lequel Clément se politise localement. Donc pour restituer un peu à ce moment-là, en gros, pourquoi est-ce qu'aussi nous on s'investit beaucoup dans le côté sous-culturel finalement plus que dans le côté vraiment militant, c'est une période un peu de creux où il n'y a pas vraiment de groupe d'extrême droite à Brest à ce moment-là. Il y a eu des choses quelques temps avant avec certains habitués du stade. Il y a eu quelques histoires avec le Renault français à ce moment-là aussi, qui était un groupe d'extrême droite qui a essayé de s'implanter à Brest. Mais en gros, quand Clément commence à traîner ensemble, il n'y a pas vraiment de groupe constitué d'extrême droite sur Brest. En Bretagne, il y a Jeune Bretagne, il y a Adzaou qui fait un peu des choses, mais pas trop par ici. Et donc, nous, finalement, notre antifascisme, il est sous-culturel, comme je disais. Il est aussi dans le fait d'occuper un peu la rue, de faire du collage, de faire des tags, de faire des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de confrontation, en tout cas, à ce moment-là précis, avec des groupes d'extrême droite. Et on s'investit aussi dans un autre lieu qui est assez important, qui s'appelait le Radeau. Qui est un squat qui a duré aussi assez peu de temps, mais qui permet un peu de, on en parle un peu dans le bouquin aussi, qui permet de rebrasser pas mal de gens sur Brest et de relancer un peu des dynamiques politiques. À l'échelle française, à ce moment-là, Glenn en a un peu parlé. Il y a la Manif pour tous qui commence à s'organiser fin 2012, si mes souvenirs sont bons. Et donc localement sur Brest, c'est là où les choses changent un peu. Il y a des espèces de prières de rue, de cercles de prières, organisées par des groupes traditionnalistes catholiques. Et pour la première fois, on se dit un peu que l'ambiance elle change. Il y a une parole homophobe libérée qu'on n'avait pas vraiment vu venir. Donc à la rentrée, Clément bouge à Paris. Et à ce moment-là, lui, il est à fond dans les contre-manifs, contre la manif pour tous à Paris. Et on en discute pas mal entre nous de ce contexte politique qui est un peu changé, quoi, qui est un peu plus lourd. Ouais. Je sais pas si t'as des trucs à rajouter là-dessus.
Je ne sais pas. Est-ce que j'ai des trucs à rajouter ? Non, sur... qu'est-ce que j'allais dire ? Non, je pensais à un truc tout à l'heure, mais j'ai oublié ce que c'était.
En gros, ouais, après, c'est un peu, on reconstitue toujours un peu les faits après coup, mais à ce moment-là, avec un copain qui a participé au bouquin, on se dit y a quelque chose qui est en train de changer dans l'atmosphère politique qu'on le sent pas trop, quoi. Voilà. Donc ensuite, en juin, au printemps, intervient le décès de Clément dont Glenn a parlé. Il a rappelé un peu les circonstances. Et moi, ça me paraissait important aujourd'hui de revenir un peu sur la manière dont on vit les choses, dont on a vécu les choses à l'époque à Brest, parce que ça explique aussi un certain nombre de trucs qui perdurent aujourd'hui. Il y a notamment certains malentendus qui reviennent, j'ai l'impression, à chaque anniversaire de sa mort. En gros, pour faire simple, nous, à ce moment-là, on est quand même assez jeunes. On se retrouve à devoir gérer la mort de notre pote, qui plus est, en plus, c'est une circonstance d'une mort violente. Et très vite aussi, en fait, on est dépassé par l'événement, qui devient un événement médiatique et politique. Nous, à ce moment-là, comme je disais, bon, on est antifasciste, plus ou moins militant pour certains, mais c'est avant tout notre pote, quoi. On est une bande de potes, et on est tout de suite un peu dépossédé de sa mort, quelque part. Où, en fait, on se sent un peu dépossédé de sa mort, de notre deuil, et on traverse un peu une tension entre le fait d'être de traverser un deuil personnel et la nécessité de porter aussi une parole publique qui s'impose, et une parole publique et collective, parce qu'il y a des personnalités politiques et médiatiques nationales, mais aussi locales, qui s'emparent du sujet, et donc on est obligé, en fait, de prendre la parole. Et en fait, voilà, c'est un peu... Faut s'imaginer que c'est un peu compliqué à gérer, ça devient plus notre pote Clémou, ça devient l'affaire Clément Méric. Et on est un peu pris là-dedans. En gros, on a une nécessité, en fait, de porter une parole dans les médias et notamment dans la presse locale. Alors, il y a un rassemblement, je crois que c'est le soir même, si je me souviens bien, ou le lendemain, qui est appelé par, en gros, la gauche institutionnelle brestoise. Et nous, dans ce moment-là, on se dit que pour une fois, ce serait pas mal qu'on nous laisse un peu la parole et que certaines personnes qui ont l'habitude de s'exprimer, toujours les mêmes, nous laissent un peu de la place. Mais c'est pas vraiment ce qui se passe. Il y a François Cuyande qui est présent à ce rassemblement, donc le maire de Brest. Et nous, ça ne nous le fait pas du tout. Il y a une altercation, ça part un peu en vrille pendant le rassemblement. Et... en gros, ça a tout un tas de conséquences, notamment sur le fait que on est renvoyé dos à dos, un peu comme ce que disait Glenn dans la presse, avec l'extrême droite, sur le mode, vous voyez, eux aussi ils sont violents. Il y a une journaliste qui nous sort texto, vous êtes comme ceux que vous prétendez combattre, des choses comme ça. Il y a notamment des articles assez dégueux qui sortent dans le Télégramme et Ouest France. Et nous, voilà, toujours dans ce truc de deuil, bon, on est quand même obligé de réagir. Donc on pond un communiqué. On va foutre le bordel à la rédaction du Télégramme et Ouest France. Et le Télégramme accepte de publier une partie de notre communiqué. Donc on a quand même au moins obtenu ça. Mais en gros, on n'arrête pas. C'est une période qui est assez intense. On est obligé d'être actif. Il y a un gros collage qui est organisé sur Brest dans tous les quartiers. Et puis on organise deux manifestations à notre sauce, justement qui sont pas les mêmes dans le même mode que le rassemblement appelé par la gauche institutionnelle, et notamment une manif qui finit à Guérin. Où un peu on se lâche, à ce moment-là on repeint la place, il y a du brasero, de la musique, enfin comme on a l'habitude de faire, quoi. Et voilà, pour expliquer un peu ce contexte-là, et aussi on est sur le moment, mais surtout les années suivantes, assez mal à l'aise avec la martyrologie qui se met en place autour de la mort de Clément, notamment à Paris. Du côté de l'action antifasciste Paris-Banlieue. Encore aujourd'hui, ils revendiquent Clément comme étant leur martyr. Et alors, moi, je trouve ça aussi normal que des gens se sentent touchés, se soient sentis touchés par sa mort et aient eu envie de s'exprimer là-dessus. C'est pas du tout le souci, mais en fait, voilà, ça a été quand même toujours assez compliqué à vivre pour nous. Et... à la fois pour des raisons politiques, qu'on est plutôt de tendance libertaire, un peu on refuse les idoles et les martyrs, ça nous a dérangé assez vite, et pour des raisons aussi personnelles, ce côté martyrologie nous allait pas. Et c'est la raison pour laquelle à Brest, finalement, on n'a jamais fait d'événement public autour des anniversaires de sa mort. On a fait une fresque à Guérin parce que voilà, il traînait à Guérin et que c'était important pour nous de laisser une trace, mais enfin une fresque qui n'y est plus d'ailleurs grâce à bref, pas tout mélanger. Mais c'est la raison pour laquelle, en gros, voilà, il y a des fois des incompréhensions en fait sur pourquoi est-ce qu'on faisait pas d'événements autour de ça à Brest alors que Clément était brestois. Mais c'est aussi lié à la manière dont on a vécu les choses à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'événement public. Et ça a toujours aussi des conséquences aujourd'hui en termes de mémoire, ce qui fait aussi que l'action antifasciste Paris-Banlieue a pris énormément de place dans le travail de mémoire et dans le fait de porter une parole médiatique que nous, on n'a pas vraiment assumée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on pense Clément Méric, les gens pensent plutôt Paris alors qu'il était brestois. Voilà. Donc, c'est faut quand même le rappeler.
Il a passé 8 mois à Paris seulement, quoi.
Voilà. Moi, c'était à peu près ça que je voulais dire.
Ouais. Ouais, donc sur les mobilisations, en fait, le truc c'est que je voulais dire, c'est que donc les deux trois semaines, on va dire, après sa mort, c'est un rush sans fin, c'est-à-dire que on a très peu de temps aussi pour réfléchir à comment on est dans une sorte de, ouais, c'est comme tu disais, de truc de deuil un peu chelou où en fait il faut on se met dans un rush un peu, on va dire, militant aussi, en mode il faut écrire des communiqués, il faut tout de suite parler, dire ce qu'on pense, machin. Et en fait, on n'a pas le temps de juste d'y réfléchir, en fait, de se poser la question, en fait, comment on veut vivre ce moment-là. Et du coup, il y a aussi plein de trucs dont on n'a jamais pu discuter, même entre nous. Il y a des gens qui, par exemple, se mettent en retrait, d'autres qui se disent, moi, j'ai besoin qu'on fasse de la mobilisation. Après, ce qui était assez beau aussi là-dedans, c'est qu'en fait, on a réussi à avoir une sorte de solidarité et d'être quand même tous ensemble à plein de moments. Malgré que, bon, voilà, il y a des gens qui, au bout d'un moment, au bout de quand même plusieurs semaines, il y a des gens qui trouvent ça assez lourd et qui se mettent un peu en retrait, quoi. Mais il y a eu quand même plein de moments où c'était assez... c'était pertinent de faire ces trucs-là. Et bon, par contre, au bout de quelques semaines, on est quand même bien épuisé. Et du coup, tout s'arrête. Et puis, on n'en reparle plus. Et puis, on n'en reparle que maintenant, quoi. Enfin, voilà, 10 ans après. Et ça reste toujours dans notre vie un peu une toile de fond comme ça. C'est-à-dire que notre rapport aussi, en tant qu'anard ou antifa ou je sais pas quoi, notre rapport aux institutions locales, que ce soit la mairie, que ce soit les médias, que ce soit les autres organisations entre guillemets de gauche qui sont présentes, avec qui on peut se croiser sur des mobilisations, des mouvements sociaux, ce moment-là qu'on vit par rapport à la mort de Clément, il conditionne notre rapport à ces autres institutions-là. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on n'a toujours pas digérées et qu'on ne digérera jamais. C'est-à-dire que on l'a pas précisé. Alors nous, on va pas tirer à balles réelles sur les gens comme ça pour le plaisir. C'est juste pour dire, en fait, les procédés, ils sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que, en fait, notre parole en tant qu'anard, elle vaut jamais rien. Une fois qu'on doit nous la laisser, on nous laisse un petit peu de lest et finalement on nous reprend, la parole, comme si en fait des institutions ou des partis ou des orgas de gauche avaient tout le temps le pouvoir de parler sur tous les sujets à la place des personnes concernées, ce qui est déjà en soi un peu problématique. Le traitement médiatique par rapport à ça, il a été, on en parlait un peu tout à l'heure, mais en fait, je me dis en fait assez rapidement. Il faut imaginer que pendant ces 2-3 semaines de rush, il y a des journalistes qui, pendant que nous on prépare les manifs Place Guérin, qu'on fait des banderoles, il y a des journalistes partout qui traînent dans le quartier, qui passent en bagnole avec des caméras, qui s'arrêtent, qui viennent nous voir, qui nous harcèlent, qui appellent aussi les gens de la famille, qui réussissent à choper des numéros de téléphone. Et ça n'arrête jamais. En fait, on est tout le temps en train de dire... en fait, il y a tellement de sollicitations qu'on dit évidemment non à tout, parce qu'on est dans une... En fait, on a besoin à la fois de se mobiliser et à la fois d'être dans ce truc de deuil un peu. Et donc, c'est... En fait, j'ai l'impression que le traitement médiatique qu'on nous réserve, mais vraiment illico au bout de 2-3 jours, c'est une sorte de vengeance des journalistes qui qui nous font payer le fait de ne pas parler. Pour moi, c'est clairement mon interprétation des choses. Et en gros, les journalistes qui ont écrit des conneries et qui on a été voir, à qui on a été discuter, s'expliquer après, en gros, ils avaient à peu près cette position-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu parler, en fait, vous êtes comme les autres. Vous êtes aussi violent, aussi agressif. Vous êtes... Bon, en fait, quand tu passes des jours à te faire matraquer de photos, enfin, tu te fais pister partout, tu as des sortes de paparazzi qui te suivent et qui te prennent en photo. Et quand toi, tu... Enfin, voilà, il y a un pote qui, pendant une des manifs, qui... On en parle un peu dans le bouquin aussi, mais ces manifs-là. Mais il y a un pote qui lance sa veste comme ça à une journaliste, genre... Bah, qui essaie de le prendre en photo en gros plan, et lui il en a marre, et il lance sa veste comme ça, et en fait elle dit « Ouais, vous êtes comme les autres. » En fait on, mais comment on peut mettre dos à dos ces trucs-là ? Enfin, nous on n'arrive pas à comprendre toujours encore aujourd'hui ce truc-là. Bref, c'est une sorte de malhonnêteté intellectuelle, mais bon, passons. Après, je pense qu'il y a au Telegram, ils ont un peu reconnu, ils ont un peu entendu le truc. C'est pas pour dire qu'ils sont exemplaires, mais par contre, à Ouest France, la personne qui avait écrit, peu importe qui c'est, mais la personne qui avait écrit l'article à ce moment-là, elle a vraiment soutenu sa position. Voilà. Du coup, c'était très compliqué de discuter. Et je crois qu'on n'a jamais reparlé, même avec les orgas locales, de ces trucs-là. Enfin, on n'en a jamais recausé, quoi. Voilà. Bon. C'est. On passe à autre chose, quoi. Je vais peut-être parler un peu d'autre chose, du rapport à la justice. Enfin, du coup, il y a eu un traitement judiciaire de cette affaire. Moi, j'ai pas tous les détails. Moi, j'ai assisté au procès en cour d'appel à Paris en 2018. Je crois que c'était 2018. Peut-être 2017, je sais plus. J'ai suivi un peu ça de loin. Après, je pense qu'on partage, en tout cas, on est quelques personnes, quelques Brestois ou Restoises là. On n'a pas l'avis de tout le monde, hein, on peut pas, on n'est pas porte-parole de la. En tout cas, nous, moi, enfin, je vais parler en tant que moi-même. Mon rapport à la justice et comment on traite ce genre d'affaires, évidemment qu'on n'attend pas de la justice qu'elle prenne position et qu'elle gère les conséquences de ce genre de drame. Enfin. Que nous, le fait d'avoir suivi le procès, même un peu de loin, et de voir des gens partir en prison, évidemment qu'on trouve que c'est pas une solution, parce qu'on est un art et qu'on est contre la prison, voilà, pour aller vite, et qu'on souhaite pas la prison, même à nos pires ennemis, en gros. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Après, par ailleurs, je comprends évidemment que des gens de la famille aient trouvé ça pertinent de se constituer partie civile dans le procès. Et en fait, aujourd'hui, on n'a aucun outil pour faire ce que fait la justice. C'est-à-dire on n'a aucun outil, aucune instance, on n'a rien en fait, pour revenir sur des faits, des choses qui se sont passées, des faits graves ou des drames comme celui-là, et pouvoir dire, bon, en fait, on va revenir sur les faits, qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, et en fait, comment est-ce qu'on... Voilà, le problème de la justice, c'est qu'elle ne demande pas de réparation et qu'elle fait de la punition. Voilà, c'est, en gros, c'est ça. Donc évidemment que ça ne répond pas à, ça répond pas à des attentes qu'on aurait pu avoir, ou que évidemment que c'est un grand théâtre, on est aux assises, voilà, enfin, on n'a pas on n'arrive pas à accéder ou de très loin à un truc comme une sorte de vérité ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Mais par contre, je comprends qu'effectivement, on puisse se dire, bon, bah, c'est un outil qu'on peut utiliser pour essayer de comprendre qui sont ces mecs d'extrême droite, quels sont leurs réseaux, comment est-ce qu'ils ont pu arriver aussi à un degré de violence dont ils sont, pour moi, les seuls responsables, puisque nous, dans notre identité politique, on n'a pas, dans notre ADN, notre ADN, c'est pas la violence. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais en gros, nous, notre antifascisme radical, on va dire un peu comme ça, mais moi, je le considère comme un truc de réponse et de défense du mouvement social, d'autodéfense du mouvement social. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais cherché la confrontation spécialement avec des groupes. C'est-à-dire que nous, on défend des valeurs qui sont, on va dire, pour aller super large, progressiste ou je sais pas quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de se défendre. Donc c'est pour dire que j'ai jamais trop compris pourquoi on est tout le temps dans un retournement de. On met dos à dos en fait l'extrême droite et l'extrême gauche, et je comprends pas cette démarche là, dans le sens où dans l'ADN par contre de l'extrême droite, c'est une société viriliste, patriarcale, violente, qui n'a plus rien à prouver sur ce sujet là. Donc j'avais envie de dire ça. Voilà, d'enfoncer les portes ouvertes, même si on prêche à des convaincus peut-être, mais voilà pour notre rapport à la justice. Après, ça nous empêche pas de, ça nous a pas empêché dans ce rapport-là d'en parler quand même avec les parents de Clément, de continuer à parler du procès, à parler de des personnes qui ont tué Clément, et de voir en fait d'essayer d'analyser en fait, d'analyser, d'essayer de comprendre des trucs. Voilà, et je sais pas sur quoi on part après.
Non, mais si, sur le procès, c'est intéressant, c'est que c'est quand même un vrai dilemme à ce moment-là pour nous. Et moi, par exemple, je m'en suis pas mal désintéressé. Mais en même temps, c'est quand même un vrai dilemme. Est-ce qu'on approuve la justice bourgeoise ou est-ce que c'est la loi du talion ? Et j'ai pas répondu encore à cette question.
En fait, le procès, ça a été évidemment une sorte de ping-pong. Tu vois, sur qui est responsable. Enfin, ça a été un ping-pong pendant. Jusqu'à la fin. En gros, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est les médias ne sont pas revenus sur leur parole. Les médias ne reviennent jamais sur leur parole. C'est-à-dire que quand ils disent un truc à un moment, pour qu'ils disent « on s'est trompé, pardon », il n'y en a pas beaucoup qui le font. Quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui font des... Enfin, ça arrive, mais en général, c'est d'autres médias qui font le boulot à leur place de dire « vous vous êtes trompé ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, les premiers trucs qui sortent après la mort de Clément, qui sont un peu contradictoires, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui font le boulot après de rétablir des vérités, entre guillemets, ou de... Il y a eu quelques trucs, je crois, il y a eu Libé, les Inrock...
Nous, on a participé à un papier à ce moment-là, qui est paru dans Libé, et où c'était Marie, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait le tampon en fait, entre nous et Libé. Nous, on n'a pas été directement en contact avec les journalistes. Et je pense que c'est le truc le moins pourri qui est sorti.
Il y a eu le truc avec les Inrock aussi.
Mais ça, c'est plus tard.
Ouais, ça, c'est plus tard. Ouais. Après, sur le procès, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une. Enfin, évidemment, c'est comme s'il y a des années qui se sont passées, il n'y a pas eu de couverture médiatique ou de. Moi, j'ai pas lu, en tout cas, beaucoup de trucs qui font le topo qu'on fait dans le bouquin sur. Comment les trucs se sont déroulés, c'est quoi les mécanismes qui se sont joués médiatiquement, notamment ce truc de RTL qui dit la vidéo a parlé et puis que c'est repris par l'AFP sans que ça ait été vérifié. En fait, la vidéo elle montre rien, mais bon, tout le monde reprend ce truc-là à son compte. Ensuite, il y a les chaînes de télé en continu qui reprennent ce truc-là, etc. Il y a le 20h de France 2 qui font. Les parents de Clément en parlent aussi un peu dans le bouquin à un moment. Et c'est le truc aussi qui a appuyé, qui a enfoncé le clou, c'est que en fait eux ils font une sorte de vidéographie d'info, comment ça s'appelle ? En fait ils font une sorte de fausse vidéo une reconstitution animée de la bagarre où ils mettent Clément, un petit personnage qui va taper facho et qui, en fait ça et donc ils reprennent le truc d'RTL qui est repris par l'AFP et puis ils l'interprètent à leur sauce en faisant une infographie, je crois que ça s'appelle infographie, mais et ils font un truc comme ça. Et pareil, eux, ils ont jamais refait après de trucs là-dessus en disant c'est à voir. Bon. Et en fait, il y a plein de choses qui partent de là. C'est-à-dire que la vision de cette histoire et ce qu'elle a laissé comme trace mémorielle, on va dire. C'est à la fois que l'extrême droite est violente, mais aussi que l'extrême gauche est violente. Parce que cette histoire, en gros, ils ont vu le 20h de France 2 et que, en fait, quand même, machin. Et en fait, c'est quand même incroyable parce que c'est une fausse vidéo en image animée. Enfin, l'outillage médiatique et journalistique à ce moment-là, il est hyper intéressant pour ça aussi. En fait, c'est le traitement médiatique et politique de ces questions-là, elle est très manichéenne, c'est-à-dire qu'elle est gentille et méchante. Il faut savoir qui c'est. Donc, et c'est très compliqué de se positionner. C'est-à-dire, on le voit aussi avec les questions d'aujourd'hui. C'est des questions autour de, par exemple, de l'écologie radicale ou des trucs comme ça. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a toujours besoin de savoir c'est qui les gentils et méchants. Est-ce que c'est les flics qui ont commencé? Est-ce que c'est les manifestants? Mais c'est toujours les mêmes démarches. C'est-à-dire que, en fait, les choses sont bien plus complexes que ça, mais on sait de quel côté est l'arme qui tire, en fait. Bon, bref.
Moi, ma question portait sur l'analyse de fond que vous faites sur, effectivement, cette mise en miroir qui s'accentue de plus en plus, d'ailleurs. Voilà. Au-delà de ce qu'on observe et qu'on constate, évidemment, hein, et de ce qu'il y a d'injuste, entre guillemets, hein, mais politiquement, qu'est-ce qui anime, voilà, le pourquoi, votre analyse à vous du pourquoi?
Après, là, c'est un peu compliqué parce qu'on n'intervient pas en tant que spécialiste là, de l'extrême droite, mais plutôt parce qu'on a participé à ce bouquin. Mais ce que, on en parle un peu dans le bouquin aussi, il me semble. Ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, ouais, y a une mise en équivalence de un peu toutes les idées se valent et on présente jamais, en fait, on parle jamais vraiment de c'est quoi le projet politique de l'extrême droite. Et c'est ça qui me frappe. Alors pourquoi, je sais pas, t'as... Peut-être que tu as la réponse.
Moi, je pense qu'on ne parle pas de notre projet politique non plus.
Non.
Parce qu'il faut faire rentrer les trucs dans des représentations. Il faut que... Il y a quand même des gens qui ont un intérêt à ce que la représentation de ce qu'on défend soit pas, paraisse pas trop comme un avenir souhaitable, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on puisse se rendre compte en fait que bah nous, notre ADN politique, c'est pas de créer un monde où il y a de la violence partout. En fait, on essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins besoin de l'usage de la violence. Des fois, pour se défendre, nous, on a toujours... je vais pas parler à sa place, mais l'autre copain qui intervient avec nous dans le bouquin sur la question de la violence, il disait que lui, il avait un souci maintenant, aujourd'hui, avec... tous les trucs Antifa, un peu avec des points américains, Antifa Fighting Club ou des Antifa Club de Boxe, Antifa machin, et que enfin, on n'a pas de problème foncièrement avec ces trucs-là, mais que c'est vrai, enfin moi je le rejoins là-dessus, on a un souci avec l'imaginaire autour de l'usage de la violence contre l'extrême droite dans un truc un peu, comment dire, fantasmé ou, tu vois, genre idéalisé, quoi. Parce que, enfin, je sais pas, nous on considère que quand il y a besoin de répondre à la, enfin, quand il y a besoin de, bah, quand on se fait attaquer par l'extrême droite, bah, il faut essayer de pas tendre l'autre joue, de pas juste baisser la tête, quoi. Enfin, mais que c'est pas, enfin, en fait, on fait comme on peut, quoi. On fait comme on peut moi, ce que je me dis, c'est que l'antifascisme, il est pas que là, déjà. Enfin, qu'il y a plein de manières de faire de l'antifascisme et qu'il y a de l'éducation populaire, il y a des gens ici qui bossent en tant qu'animateurs et animatrices et qui font un boulot de dingue sur des questions qui nous animent ce week-end, genre les questions de racisme, de discrimination, etc. Enfin, et d'antifascisme, il y a plein de trucs à faire partout. Il y a des gens qui font juste de la propagande, qui vont essayer de diffuser des idées libertaires ou antifa, et moi je trouve ça super, quoi. Enfin, ou qui vont essayer de faire de la veille et d'essayer de surveiller comment fonctionnent les groupes d'extrême droite. Enfin, tout ce boulot-là, en fait, c'est un boulot monstrueux et qui n'est pas un boulot d'être dans la rue et de courir après les fachos, quoi. Enfin, et pour moi, c'est un ensemble de choses qui est hyper... toutes les choses sont hyper importantes, quoi. Et il ne faut pas du tout dénigrer certains trucs, quoi.
Les stats qui revenaient là-dessus, c'est l'extrême gauche a tué... des militants d'extrême droite, mais ça date d'Action Directe, quoi. Ils en étaient en décompte, ils en étaient à 2. Alors que le décompte de l'extrême droite qui tue des militants, ils en sont à plus d'une vingtaine, quoi. Enfin, donc là, les stats parlent, quoi.
Et ce qui est assez fou, en fait, ce qui est assez ouf là, en ce moment même, c'est que là, par exemple, je sais plus si c'était fin juin ou début juillet, c'est quand même la première fois en France qu'il y a un projet d'attentat d'extrême droite qui est traité aux assises. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, c'est la première fois en France qu'on considère un projet d'attentat d'extrême droite. Donc c'est l'histoire de, je sais pas si vous avez suivi, merde, comment ils s'appellent, leur sorte de groupe. Non, c'était pas ça. En gros, c'est l'histoire d'un ancien gendarme, enfin un jeune qui est rentré dans la, dans la gendarmerie, qui s'est fait un peu virer là il y a un an ou deux, et qui a autour de lui recruté pas mal de jeunes qui avaient entre 14 et 17 ans, et qui a commencé à faire du tir dans les bois, du tir à carabine, on va dire. Ils ont commencé à faire une sorte de groupe comme ça, avec des projets d'attentats sur des concerts. En gros, ils voulaient faire le Bataclan, mais d'extrême droite. En gros, c'est ça leur truc. C'est ça qu'ils disent en garde à vue, d'ailleurs. Mais, ouais. Et en fait, on a une époque où, quand même, l'extrême droite, ils sont capables d'avoir des groupes qui sortent ça, quoi. On n'en parle pas beaucoup. Enfin, il y a eu un ou deux trucs dans le monde. C'est la première fois dans l'histoire que ça a lieu, qu'il y a des projets de ce genre-là. En gros, ce mec-là, le gendarme là, qui a enquêté dans l'histoire, il a repris à son compte l'histoire de l'attentat en Nouvelle-Zélande, Christchurch, si je ne me trompe pas. En gros, c'est lui qui a participé à. Enfin, il a traduit en français. Il a participé à la traduction en français de si je me plante pas. Il faudrait vérifier ce que je dis. Mais il a participé à la traduction en français du bouquin, enfin du sort de pamphlet que le mec de Christchurch avait écrit. Et en fait, il a une velléité de construire un groupe comme ça en France, quoi.
Merci pour la présentation, merci pour le taf sur le bouquin. Pour revenir sur le sujet un peu de départ, moi j'avais une question sur la position des parents de Clément. Et je sais que vous ne parlez pas pour eux, mais peut-être que vous avez des éléments sur c'était quoi leur position vis-à-vis de la politisation du meurtre de Clément, de sa mémoire derrière. Et est-ce que vous avez parlé d'Orga de Solidaire, de la FAPB, est-ce qu'il y a eu des liens avec, de la FAPB, une main tendue de la FAPB, par exemple, vers les parents, est-ce qu'elle a été maintenue? J'avais des questions là-dessus.
Enfin, voilà, on parle évidemment par leur place, mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un truc. En tout cas, nous, on peut parler peut-être de notre rapport à ça, avec eux. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a essayé, en tout cas au moment de sa mort, de s'inclure les uns les autres, en tant que proches, dans une démarche qui est collective. C'est-à-dire que eux, ils ont essayé de maintenir des moments dont ils avaient besoin eux, c'est-à-dire des moments avec leurs proches, au niveau familial, etc. Ils ont essayé aussi de créer des moments avec nous. Un truc dont on n'a pas parlé, mais il y a eu en gros à Brest, il y a eu une commémoration, enfin c'est pas une commémoration, c'est une cérémonie pour la, enfin, je crois une semaine après la mort de Clément, il y a eu une cérémonie au parc de Pinfeld où il y avait, je sais pas, 300 personnes, un truc comme ça, 200 personnes, et où nous on a parlé aussi. Et où il y avait un peu plein de gens, et plein de gens de la famille, plein de gens qui. Voilà, plein de gens de Brest, un peu le réseau large, quoi. Il y avait nos potes aussi. Et en fait, ça, c'est vraiment les parents de Clément qui avaient envie de ce temps-là. C'est-à-dire que ce jour-là, il y avait aussi le maire de Brest, François Cuandre. C'est-à-dire que nous, on se retrouvait dans une cérémonie avec le maire aussi qui est là, alors que quelques jours avant, il y a eu une altercation au Rassemblement Place des Libertés. Donc. Mais je pense qu'on a tous joué le jeu, enfin on a tous et toutes joué, enfin c'était pas un jeu, mais on s'est tous dit, ok, c'est un temps qui est important pour tout le monde en fait. C'est un moment un peu à l'écart de tout là, et en fait c'est un moment pour nous et pour les proches et puis les gens qu'il y a autour, quoi. Enfin on peut pas, nous on peut pas reprocher à des gens de se sentir touchés par cet événement là, et c'est tant mieux que les gens se sentent touchés, quoi. Enfin parce que c'est. Ouais, pour moi, c'est un réel danger aujourd'hui. Enfin, ce genre de situation pourrait très bien se reproduire aujourd'hui pour moi. Enfin.
Mais peut-être, ouais, pour répondre plus directement à ta question sur la politisation, les parents de Clément, ils sont de gauche. En fait, la manière dont ils ont vécu le truc, moi, j'ai l'impression, et des suites, ça, c'est qu'ils ont essayé de rester fidèles à ses engagements à lui. Quelque part, ils se sont un peu radicalisés, je pense. Aussi politiquement, je sais pas, après peut-être que j'interprète un peu, mais je pense que c'est ça. Et ils étaient en tout cas en lien avec l'AFA, mais nous aussi d'ailleurs au début. Ça s'est dilué après, mais il n'y a pas eu de, enfin oui, tout le monde un peu discutait quand même. Il y avait des liens même assez forts au début. Je sais pas si ça répond à ta question.